Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Grand Bien vous fasse. Vous êtes sans doute nombreux à avoir cédé aux délices des chocolats de Pâques, à vous être peut-être resservi de ce bon gigot d'agneau rosé à point, accompagné de pommes de terre sautées et de mayonnaise maison, sauf si vous faites attention à ce que vous mangez, si vous contrôlez avec une précision diabolique la provenance nutritionnelle de ce que vous avalez, avec une idée fixe, restez en bonne santé en ne déviant pas du droit chemin nutritionnel. Zoom ce matin sur l'obsession de manger sainement, un phénomène qui peut avoir des conséquences dans sa vie personnelle et sociale. Nous verrons ce matin ce qui sépare le normal du pathologique, pourquoi devient-on obsédé par la saine alimentation et comment apaiser ce rapport à la nourriture un peu contraignant. Nous attendons vos questions et témoignages par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com, sur notre page Facebook, ainsi qu'au standard de France Inter 01 45 24 7000. Clarisse et Ulysse attendent vos coups de fil et puis dans quelques minutes, vous retrouverez le petit roman de la vie quotidienne de Julien Bisson.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rébéi.
Elles veulent quoi les petites dames?
Ah, pour moi le plat du jour s'il vous plaît. Mmh. Pour moi une assiette de concombre. Mmh. Non, deux assiettes de concombre, avec une seule je risque d'avoir faim.
Un jour et deux concombres vinaigrettes, deux.
Ah non, sans vinaigrette, nature.
Ah, coup de théâtre, ah. Deux concombres nature.
Oh, mais toi aussi t'es tombée dans le régime, mais qu'est-ce que vous avez toutes? Le Montalembert, attends, c'est génial. Un seul aliment par semaine, mais à volonté. Et puis alors, entre les repas, tu te fais tes trois bouteilles d'eau tranquille.
Voilà, un festin de madame.
Et t'as choisi le concombre pour toute la semaine?
Rigole pas, Lily, c'est hyper sérieux. Mon médecin, c'est une sommité de la diététique. 2 mois et demi pour avoir un rendez-vous.
Et moi, je ne peux pas faire régime, j'ai faim.
Un extrait du film « J'ai faim » en 2001. Avec nous pour évoquer l'obsession de toujours manger sainement, Camille Adamiec, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sociologie, enseignante et chercheuse à l'Université de Strasbourg, spécialiste en sociologie de l'alimentation et de la santé, et vous publiez chez Hachette « Manger sain n'est pas si sain ». Bonjour Bruno Humbeck.
Bonjour.
Vous êtes psychologue et chercheur à l'Université de Mons et vous arrivez de Belgique. Voilà. Bonjour Sabrina Debusca.
Bonjour à tous.
Vous êtes journaliste indépendante, auteur du blog « Ça se saurait », consacré au bien-être et à la santé. Vous nous raconterez tout à l'heure votre ancienne obsession de toujours manger sainement, qui vous a bien occupé l'esprit, pour ne pas dire plus. Et puis tout à l'heure, nous recevons au téléphone le médecin nutritionniste Laurent Chevalier. Camille Adamiec, le titre de votre ouvrage, c'est « Manger sain n'est pas si sain », c'est un bel oxymore.
C'est effectivement un bel oxymore qui montre toute la complexité de ce terme de sain, qu'on peut finalement retourner de toutes les façons que l'on veut.
Qu'est-ce qui a motivé l'écriture de ce livre sous-titré « Raisonner l'alimentation santé » ?
Alors, l'idée de ce livre, c'est vraiment d'offrir finalement à un public très large une réflexion sur le lien aujourd'hui que propose la société entre l'alimentation et la santé. C'est-à-dire, c'est mettre en perspective ce lien qui n'a rien de nouveau historiquement, voilà, qui s'inscrit complètement dans une continuité, mais qui a des particularités aujourd'hui et qui permet donc... Qui peut être questionné davantage.
Alors ce lien n'est pas nouveau, c'est une notion, l'alimentation santé, qui remonte à l'Antiquité. Les anciens se sont préoccupés du lien de causalité entre l'alimentation et la santé. Rappelons que pour le médecin grec Hippocrate, la bonne santé puisait ses sources dans l'alimentation. La diète antique est d'ailleurs l'une des trois branches de la médecine.
Oui, c'est ça, tout à fait. Et, Hippocrate disait que l'alimentation soit ta première médecine.
Alors très tôt, on a découvert les principes de l'alimentation de l'homme en bonne santé. Que reste-t-il aujourd'hui de ces principes antiques ?
Il nous reste d'importantes tendances. La médecine hippocratique, avec sa manière finalement de penser le corps et de penser les humeurs, de penser aussi la globalité, etc. C'est quelque chose qui nous traverse et sur lequel on revient d'autant plus que la médecine actuelle peut être controversée pour X raisons.
Ce qui nous reste, c'est peut-être la recherche de l'équilibre, de la tempérance.
Tout à fait. La notion d'équilibre est une notion qui a traversé les siècles et qui aujourd'hui s'affirme d'autant plus fort que l'on est peut-être dans un monde en déséquilibre et que ce besoin de chercher l'équilibre se fait d'autant plus sentir.
Qu'est-ce qu'on appelle alimentation santé aujourd'hui en 2017 ? On fait référence à quoi ?
En tout cas, pour moi, l'alimentation santé aujourd'hui, c'est... toutes les formes finalement d'alimentation qui prennent en compte la santé, qui mettent au cœur la recherche de la santé. Donc ça peut être du régime sans gluten, au végétarisme, à des formes plus pathologiques d'alimentation. Voilà, c'est un tout en fait, c'est un concept qui permet d'englober des tendances différentes.
Sabrina Debusca, je rappelle que vous êtes journaliste spécialisée dans la santé et le bien-être. Longtemps, vous vous êtes levée avec l'idée fixe de manger sainement. À rechercher à tout prix la santé dans votre assiette.
En fait, c'est ce qui m'a menée à ma perte, c'est d'être justement journaliste santé et de lire à longueur de journée des études et de voir des injonctions qui se contredisent toutes finalement les unes les autres et d'être tellement perdue là-dedans qu'en essayant de toutes les appliquer, à la fin, j'avais plus grand-chose à manger que des fruits et légumes. C'est passé crescendo du « je mange industriel parce que je sors de mes études, j'ai pas beaucoup d'argent » à « oh, bah, j'essaye de me rattraper en passant à quelque chose de sain ». Puis après, c'est passé, ça a terminé au crudivorisme et là, c'est qu'après un an et après avoir eu des carences que mon entourage m'a ouvert les yeux sur le fait que je me plantais totalement et que je n'étais pas en bonne santé à cause de mon alimentation.
Et on peut dire que c'est cette cacophonie diététique qui vous a conduit à cette obsession de manger toujours sainement?
L'envie de bien faire, l'envie de suivre tout ce que je voyais et qui me paraissait tout à fait plausible et face à cette alimentation moderne industrielle qui était pas... C'était un peu une réaction face à ça, une envie de bien faire et c'est vraiment parti beaucoup trop loin.
Bruno Humbeck, on s'intéressera tout à l'heure à ce qui se passe dans la tête de celui qui est obsédé toujours par la saine alimentation. Mais il ne faut pas oublier que manger sain contribue tout de même à un bon équilibre psychique et émotionnel.
Oui, c'est pour ça qu'on parlera ici de recherche déséquilibrée d'équilibre. C'est ça le principe. Hein. Le souci de bien faire n'est pas un problème. Le problème, c'est le désir de perfection. Quand on ne se permet pas à un moment donné de se faire plaisir, par exemple, derrière un besoin qui est celui, finalement, qui va nourrir la névrose. Hein, parce que la névrose, c'est pas a priori quelque chose de négatif. Et ça doit être nourri d'angoisse. L'angoisse, globalement, c'est incertitude, finitude, solitude. On va tous mourir, on ne sait pas quand.
Merci.
Et ceux qu'on aime vont mourir aussi. Je ne reste pas là-dessus. Hein. Je sais que ça plombe l'ambiance, le savoir. Donc, on n'y pense pas. Mais on va, quand on est des angoissés performants, on va développer de l'anxiété. C'est-à-dire qu'on va déposer cette angoisse sur des choses précises qu'on peut contrôler. L'anxiété par rapport aux araignées, par exemple, ou par rapport à l'alimentation. La volonté de contrôler, qui à un moment donné va devenir excessive parce qu'on ne peut pas contrôler l'ensemble de ces angoisses. On doit accepter un minimum d'angoisse. Donc, le principe, c'est cet équilibre entre l'angoisse, l'anxiété et la peur, hein, manger de l'alimentation pourrie, par exemple, on sait que c'est pas bon pour la santé. Et donc, on doit normalement avoir peur d'une viande complètement bleue.
Camille Adamiec, sur cette cacophonie diététique qu'évoquait Sabrina Debusca.
Oui, tout à fait. Et je crois que ce que vous développez aussi, c'est l'idée de chercher du savoir et de le produire à un moment donné. C'est-à-dire qu'on est face à une cacophonie diététique, donc les savoirs sont multiples, sont multipliés, les sources sont infinies, et à un moment donné, on se dit, bon, face à ça, je fais quoi? Il n'y a plus que moi. Il n'y a plus que moi, et c'est le retour à soi comme expert. Voilà, c'est soi l'expert, et c'est la solution qu'on trouve.
01 45 24 7000, c'est le numéro que vous pouvez appeler si vous ou l'un de vos proches est obsédé par toujours manger sainement, au risque de refuser toute invitation à dîner et à peut-être s'isoler socialement. En attendant, il est l'heure de retrouver le petit roman de la vie quotidienne avec Julien Bisson.
Les mots et les idées peuvent changer le monde.
Ton roman, ça avance?
Oui, il paraît que le deuxième, c'est toujours le plus dur.
Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Alors vous remplacez ce lundi notre philosophe Thibaut de Saint-Maurice qui digère le trop-plein de chocolat de Pâques. Il est d'ailleurs question de chocolat dans votre petit roman de la vie quotidienne.
Bonjour, je m'appelle Forrest Gump. Vous voulez un chocolat? Je crois que je pourrais en manger 1,5 million. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Et oui, Julien, on ne sait jamais sur lequel on va tomber. Moi, je pense à ceux fourrés à la cerise, que je trouve absolument dégueulasse.
Ceux qui restent toujours à la fin de la boîte, hein, oui, on a les mêmes. Lundi de Pâques oblige, et il est fort probable qu'à cette heure-ci, vous et vos enfants aient déjà les doigts noircis de chocolat après une chasse des plus fructueuses aux quatre coins du jardin, si vous en avez un, bien sûr. Vous avez goûté un premier œuf, savouré son cœur praliné, dégusté un second, celui-là était au lait, avaler un troisième, noir, un peu plus corsé. C'est au moment de déballer le quatrième que vient naître en vous une petite pointe de culpabilité. Au fond, est-ce bien raisonnable de manger encore un autre œuf? Est-ce qu'il ne faudrait pas garder les oreilles du lapin pour demain? Bref, faut-il se priver du bonheur d'un dernier petit chocolat? Avant toute chose, dites-vous bien que vous n'êtes pas le seul devant ce dilemme, puisque pas moins de 15 000 tonnes de chocolat sont vendues en France au moment du week-end de Pâques, soit à peu près 250 grammes par personne, deux grosses tablettes. De quoi donner raison à l'adage populaire qui veut que 9 personnes sur 10 aiment le chocolat. Quant à la dixième, eh bien, c'est un fief menteur, n'est-ce pas, mon cher Alice?
Je ne vous contredirai pas. Alors, est-ce que manger du chocolat nous fait vraiment du bien?
En tout cas, c'est ce que pensait le grand gastronome Brillat Savarin. Il affirmait déjà il y a 2 siècles, les personnes qui boivent régulièrement du chocolat se distinguent par leur bonne santé et leur résistance à toutes sortes de maladies mineures qui troublent la sérénité de la vie. Eh bien, figurez-vous que 2 siècles plus tard, les sciences modernes lui ont donné raison. D'abord parce que le chocolat est plein d'antioxydants qui permettent d'éloigner les maladies cardiovasculaires, mais surtout car il est une forme d'antidépresseur naturel. Il contient une molécule euphorisante, la phényléthylamine, un psychotrope de la famille des amphétamines. Cette molécule va libérer dans notre corps de la dopamine, la fameuse hormone du plaisir. En gros, croquer dans un carré de chocolat, c'est un peu comme connaître un mini-orgasme à chaque bouchée. C'est en fait, ça va permettre de donner raison à cette auteure anglaise Miranda Graham qui avait ainsi résumé les choses. Ne croyez pas que le chocolat soit un substitut à l'amour, c'est l'amour qui est un substitut au chocolat. Ajoutons à cela que le chocolat apporte aussi du magnésium qui joue contre la fatigue, ainsi que la caféine, et une molécule qui agit sur le stress pour donner une sensation de bien-être. Bref, il semble avoir tout de l'aliment antidéprime par excellence.
Et vous oubliez la théobromine.
Et le salsolinol.
Alors plutôt qu'un cachet d'antidépresseurs, de Prozac, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas avaler une tablette de chocolat, voire deux?
Si c'était aussi simple, ça se saurait. Déjà parce qu'il faudrait avaler plusieurs kilos de chocolat par jour pour remplacer les antidépresseurs traditionnels. Et là, je crains que ce soit votre balance qui risque de faire la grimace. Pour rappel, à poids égal, le chocolat, ça contient davantage de calories que des frites ou du foie gras, par exemple. En réalité, les composants du cacao que j'évoquais sont présents dans d'infimes quantités. Pour certains médecins, le bonheur que procure le chocolat, en fait, ne dépend pas tant de ses molécules, il serait avant tout psychologique. Croquer dans un morceau de chocolat vous renverrait à des souvenirs heureux, des souvenirs de jours de fête. Le soir de Noël, par exemple, ou tiens, le matin de Pâques. En gros, le chocolat vous offrira un aller direct vers l'enfance et ses trésors. Bref, ne boutez donc pas votre plaisir, ne sombrez pas forcément dans l'autorexie. Suivez plutôt l'exemple de La Rochefoucauld, qui n'était pourtant pas le dernier à faire la leçon, et qui écrivait ceci. Aimez le chocolat à fond, sans complexe ni fausse honte, car rappelez-vous, sans un grain de folie, il n'est point d'homme raisonnable. Et lorsque vous croquerez dans votre prochain œuf de Pâques, n'oubliez pas de remercier en votre fort intérieur le petit gourmand qui a eu la riche idée au XVIIIe siècle de vider les œufs que l'on mangeait traditionnellement pour marquer la fin du carême et les remplir de chocolat.
Bruno Humbeck, le chocolat, c'est avant tout un plaisir psychologique.
Alors, c'est un plaisir qui va diminuer en fonction du choix qu'on aura d'en faire. Si vous avez une boîte de 80 chocolats, vous aurez moins de plaisir à manger votre chocolat. Ben oui, parce que vous aurez toujours un petit regret. Tiens, je crois que c'est celui-là. Si vous avez 3 chocolats, vous aurez un plaisir qui sera beaucoup plus important. Donc, limitez le choix. Vous allez éviter la névrose du choix qui est un...
Sabrina Debusca, le chocolat, c'est un aliment diabolique pour celui qui est obsédé par la saine alimentation à l'époque où vous étiez orthorexique, par exemple.
Non, mais rigolez pas, Ali. L'extrait que vous avez passé en début d'émission, j'étais vraiment comme ça. Mangeais du concombre sans sauce. Et c'était pas pour mincir, hein, d'ailleurs, hein, je le précise, puisque beaucoup de femmes se tournent des fois vers l'alimentation dans le but de mincir. C'était même pas dans ce but-là. C'était vraiment que j'étais persuadée, en tant que crudivore, que la meilleure alimentation qui se rapprochait le plus des hommes préhistoriques ou ce que vous voulez, hein,
c'est le fameux régime paléo, c'est ça?
Ah non, moi, c'était vraiment crudivore. C'est-à-dire que pas de viande, donc j'étais végétalienne, mais je mangeais que des fruits et des légumes crus. Et j'ai perdu la moitié de mes cheveux.
Ça va mieux, là, aujourd'hui?
Ah bah, vous l'avez vu quand on s'est vu à Toulouse, voilà, maintenant je mange des crêpes. Non, ça a mis un an et ça m'est passé et j'ai mis d'ailleurs encore un an à m'en remettre.
Merci beaucoup Julien Bisson pour votre petit roman de la vie quotidienne. Grand bien vous fasse, et préparé cette semaine par Laure Grand Besançon et Lorraine Bess avec l'aide de Clara Marlieux, c'est réalisé par Jérôme Boulet, 01 45 24 7000.
Tout me dit que tu mens, tout me dit comment tu te tais, tout me dit que c'est trop troublant pour ne pas être vrai. Tout en toi dit que je te plais, il faut sauter dans le grand bain. Tout en toi m'a percuté, c'est un foutu coup du destin. Dis-moi ton secret, je te cacherai sous mon lit. Je le protégerai comme un oiseau défend son nid. Quelle bêtise as-tu fait? Qu'as-tu donc dans la tête pour ne pas te lancer? Mais qu'est-ce que tu attends? Car moi je n'oserai jamais. Il suffit d'un instant, clap devant le transé.
tous mes signaux sont envoyés. Ne perdons pas notre temps, sois un homme et viens m'aborder. Tape sur l'épaule du destin, il te mènera jusqu'à moi. Laisse-le te guider, il te jettera dans mes bras. Dis-moi ton secret, je le cacherai sous mon.
La femme chocolat, Olivia Ruiz, qui interprétait « Dis-moi ton secret ».
France Inter, grand bien vous fasse.
10h24 et on s'intéresse ce matin à l'obsession de toujours manger sainement au risque de s'isoler socialement avec la sociologue Camille Adamiec, de la journaliste Sabrina Debusca, du psychologue Bruno Humbeck. Et nous attendons vos questions et témoignages au 01 45 24 7000. Bonjour Elodie, bienvenue, vous appelez d'Annecy.
Oui, bonjour Ali, bonjour à tous.
Alors, est-ce que vous êtes obsédée par l'alimentation saine ?
Oui, tout à fait. Alors moi, mon témoignage se porte sur, sur mon histoire. Il se trouve qu'il y a, suite à une séparation, il y a 6 ans de cela, j'ai voulu me faire attention à ce que je mangeais, me remettre en forme, et j'ai mis le doigt petit à petit dans l'alimentation saine jusqu'à passer par l'orthorexie et tomber à mon insu dans l'anorexie et à vouloir privilégier surtout maintenant j'ai fait du chemin donc ça va beaucoup mieux mais c'est vrai que je passe beaucoup de temps à regarder toutes les valeurs nutritionnelles des aliments quand je vais au supermarché, à privilégier tout ce qui est aliment à index glycémique bas. Enfin bon, ça régit toute ma vie, quoi. Et là encore, ce week-end, en famille, le gigot d'agneau dont vous parliez tout à l'heure, qui avait l'air très très bon avec la sauce et tout ce qui va avec.
Je confirme.
Je n'ai pas pu y toucher parce que je ne savais pas. J'étais perdue quoi. Mais bon, après ça, mon témoignage à moi est un peu extrême. Hein. On n'est pas tous obligés de tomber dans l'anorexie en mangeant sainement, heureusement. Mais ce que disait votre invité à propos du plaisir et du lâcher prise, c'est vrai que c'est la nourriture, ça doit être quelque chose de tellement naturel et de plaisant que là c'est dommage de perdre ça avec un contrôle excessif quoi.
Camille Adamiec, vous pouvez nous rappeler ce qu'est l'orthorexie? Elodie parlait d'orthorexie.
Alors d'un point de vue étymologique, orthorexie c'est ortho droit, rexie l'appétit. Donc appétit droit, manger correct.
D'accord. C'est pas exactement la même chose que l'obsession de manger sainement si on se réfère à l'étymologie.
Exactement. On a traduit ça un peu grossièrement en France en insistant sur le côté médical et pathologique de ce terme. En
ça l'est devenu.
C'est aussi effectivement une des parts de l'orthorexie, c'est l'obsession du manger sain. À ce moment-là, on parlerait plutôt d'orthorexia nervosa, qui là, c'est le terme officiel de la pathologie.
Bruno Humbeck, sur le témoignage d'Élodie, qui nous dit que l'alimentation, l'orthorexie régissait sa vie,
Ce qui est important, c'est la fonction symbolique des repas chez l'être humain. Donc, d'ailleurs, c'est le mot qui a été utilisé peut-être le plus pour le moment, c'est le mot diabolique. Symbolique et diabolique, c'est la contradiction, finalement, à la fois d'un bolon, donc un signe, sun, qui nous rassemble, dia, un signe qui nous sépare. Le problème de l'orthorexie, c'est quand elle sépare l'individu des autres. C'est tout le problème qui est lié à l'être humain et le dilemme de l'omnivore. Hein. On a un vaste champ de choix qui s'est encore augmenté avec la mondialisation, par exemple. Hein. On mange tout et on peut tout manger, ce qui fait qu'on devient tous, j'ai entendu le mot tout à l'heure, expert de son propre souci alimentaire. Ça veut dire que parfois, et ça devient une névrose quand ça contrarie son rapport, son propre rapport au plaisir, mais surtout celui des autres. Parce que l'orthorexie alimentaire par délégation est aussi lourde à porter lorsque, pour ses enfants, on rêve d'une alimentation parfaite, pour son mari, pour toute sa famille, et qu'on finit par s'isoler ou isoler son clan des autres.
Sabrina Debusca, vous vous reconnaissez dans le témoignage d'Élodie ?
Oui, et c'est les proches, souvent, qui sont les premiers à nous signaler qu'on est rentré dans quelque chose qui semble ne pas nous rendre heureux, en tout cas. Et effectivement, moi, j'ai vu parce que, en fait, l'exclusion alimentaire fait que, du coup, enfin, moi, je me rappelle, mes amis étaient bien sympathiques. On choisissait les restaurants en fonction d'endroits où je savais que j'allais pouvoir manger selon mes critères à moi. Donc déjà, c'est pas très sympa et ça réduit beaucoup. Mais j'ai vu sur les réseaux sociaux, puisque du coup, en fait, moi, je trouve qu'il y a un vrai esprit de communauté et d'enfermement, et c'est ça le cercle vicieux. C'est-à-dire que moi, pendant un an, j'étais renforcée dans des dogmes qui sont des faux dogmes, par exemple la détoxination. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé à perdre mes cheveux, à avoir des problèmes de dents, donc c'est quand même aller loin, des dents qui sont transparentes, qui j'avais mal. Je vais sur des groupes de crudivores qui me disent « mais c'est normal, tu es en train de te détoxiner, tu es en train d'éliminer les mauvaises choses ». Et j'ai compris qu'un an plus tard, quand j'étais dans un piteux état, que c'était pas vrai. Mais j'ai vu des gens sur les réseaux sociaux, j'ai vu des gens qui ont divorcé en disant, écoute chérie, une femme, une amie blogueuse qui était crudivore également, écoute chérie, moi je veux pas de cadavre dans mon frigo, donc si tu continues et que tu me suis pas, c'est fini. Et ça, c'est ravageur, notamment sur les enfants. Enfin, ça cause beaucoup de problèmes.
Camille Damiac, sur le témoignage d'Élodie.
Sur le témoignage d'Élodie, ce qui m'a marqué aussi, c'est le début de son témoignage où elle dit, donc, suite à une séparation, si je me souviens bien, qu'elle a commencé à s'intéresser à tout ça. Ce qu'on remarque quand même souvent dans les récits de vie qui nous sont faits, c'est un point tournant. C'est un moment, quelque chose, il y a un événement, un décès, une maladie, une rupture, quelque chose qui fait que d'un seul coup, on se focalise peut-être plus sur son corps, son alimentation, sa santé.
Voilà. Élodie, est-ce que vous avez retrouvé un rapport apaisé à l'alimentation ?
J'y viens petit à petit, mais c'est vrai que c'est assez difficile de gérer le plaisir et la culpabilité. En fait, c'est savoir gérer son plaisir sans se mettre des nœuds dans la tête. Et là où je suis un peu plus apaisée maintenant, c'est parce que j'ai réussi à me recréer un cercle social, à me re-sociabiliser vraiment. Parce que c'est vrai que ça vous coupe complètement en fait. Vous ne pouvez plus être en présence d'amis parce que ça tourne toujours autour de la nourriture ou de quelque chose à boire et on n'a pas forcément. Voilà, on n'a pas forcément que des crudités avec du sel et du poivre ou une vinaigrette hyper light. Donc tout ce qui est chips et tout. En fait, toute cette envie qui va être créée derrière et qui va nous faire, enfin moi en tout cas, qui m'a fait beaucoup de mal, qui m'a fait me couper un peu de mes amis. Et là maintenant, ça y est, j'y reviens parce que j'ai beaucoup travaillé dessus et que je suis suivie, heureusement.
Merci beaucoup Élodie et bonne route à vous. Bonjour Anne-Sophie. Vous appelez de Pau, bienvenue dans Grand Bien vous fasse.
Merci.
Alors, que vous inspire notre sujet du jour ? Alors vous mangez sainement également ? Trop sainement peut-être ?
Ah non, alors maintenant ça va mieux.
Ouais.
En fait, j'ai une mère qui nous faisait manger très équilibré. Pour vous donner
c'est
un
pas
exemple,
mal ça, c'est pas mal a priori.
C'est pas mal, sauf que quand ça tourne à l'excès derrière, on est un peu perdu avec les aliments tentations.
C'est quoi les aliments tentation pour vous ?
Oh ben les desserts, les glaces, les bonbons, le pop-corn, voilà tous ces aliments très très sucrés et que nous on mangeait que le dimanche. Le dessert c'était que le dimanche.
C'était des aliments diabolisés dans la famille, Anne-Sophie ?
il fallait, disons qu'on mangeait plutôt les gâteaux maison, pas trop les gâteaux de la boulangerie. C'était, elle mettait pas tant le doigt sur ces aliments-là, mais c'était le fait de pousser à l'excès l'idée de manger équilibré au quotidien.
Bruno Humbeck.
Alors là, on a typiquement ce qu'on appelle l'orthorexie par délégation, qui est un symptôme d'hyperparentalité, c'est-à-dire des parents qui veulent tout contrôler, ce qu'on appelle les parents hélicoptères, hein, ils veulent contrôler tout ce qui se passe auprès de leur enfant. Ils sont aussi des parents drones, c'est-à-dire des parents qui veulent le meilleur en permanence, hein. Il ne faut surtout pas la moindre faiblesse, la moindre faille par rapport à ce qu'on veut, et ce qu'on appelle des parents curling, c'est-à-dire qu'ils frottent devant leurs enfants pour les rendre le plus heureux possible.
Les parents drones et les parents curling, j'ai appris deux choses ce matin.
Alors, on a affaire effectivement. Alors le gros problème, c'est que ça perturbe très fort les circuits de plaisir. On l'entend. Tout ce qui est fait plaisir est relégué au second plan derrière ce qui fait du bien. Bah, c'est toute la différence entre bien manger, hein, qui auparavant était manger beaucoup, et on dit de son enfant, il a bien mangé parce qu'il avait mangé beaucoup. Maintenant, il a mangé bien. C'est-à-dire qu'il a mangé sainement, et ça crée effectivement une perturbation des circuits de plaisir.
Camille Adamiec, sur ce que vient de nous dire. Anne-Sophie.
Oui, mais sur cette notion de plaisir, je crois qu'il y a aussi, c'est l'individu, mais c'est aussi la société dans laquelle on vit qui nous impose en fait une espèce de dichotomie entre plaisir ou contrainte. Comme si ça ne pouvait pas aller en blanc. C'est l'hybris et la démesure, c'est toujours l'un ou l'autre, alors que finalement, il y a peut-être du plaisir dans la contrainte et de la contrainte dans le plaisir.
Merci beaucoup Anne-Sophie de nous avoir appelé. De Pau, Camille Adamiec, à quoi ressemble la pyramide de l'alimentation santé? Dans votre livre, vous établissez une analogie entre la pyramide de l'alimentation santé avec la pyramide de la diète méditerranéenne.
Oui,
c'est quoi les principes de base de cette alimentation santé en vogue aujourd'hui, en 2017?
Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas en France, aujourd'hui, on construit effectivement une image de l'alimentation santé qui est assez proche du régime méditerranéen, c'est-à-dire avec une importance grande accordée aux fruits, aux légumes, aux céréales complets, aux huiles végétales,
aux noix et aux légumineuses, aux poissons, aux volailles,
et puis
peu
surtout,
de viande également.
C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est ce travail sur la viande qui est en train de se faire, c'est-à-dire qu'elle s'échappe de la pyramide. Je sais pas si on s'échappe pas vraiment de la pyramide, mais on bascule d'un seul coup, on vient en haut de la pyramide alors qu'on était une base. Au départ, c'était une base. Et on le voit aujourd'hui, le rapport à la viande est en train d'évoluer considérablement.
Allez, nous attendons vos témoignages et questions au 01 45 24 7000 et par courriel grand bien vous fasse à radiofrance.com.
Thank you.
Manu Chao, le tube de l'été 2001, mais gustas tu.
Ali Rebbi, grand bien vous fasse, sur France Inter.
Et à 10h38, on s'intéresse à l'obsession de toujours manger sainement avec la sociologue Camille Adamiek, de la journaliste Sabrina Debusca et du psychologue Bruno Humbeck.
Les scandales alimentaires à répétition auraient fini par installer la défiance dans notre assiette et par générer une obsession de la nourriture saine appelée l'orthorexie.
Il y a des orthorexiques qui ne mangent pas de fruits qui ont été cueillis depuis plus d'un quart d'heure, 20 minutes. D'autres qui finalement ne mangent plus que des graines qu'ils ramassent par terre. Et donc peu à peu, finalement, manger, ce n'est plus choisir dans un menu, c'est respecter une ordonnance.
Un extrait d'un reportage de LCI le 29 décembre dernier. Camille Adamiek, je rappelle qu'orthorexie vient de droit, ortho et d'orexia, appétit, nourriture, manger droit. Alors c'est un médecin américain, Steve Bratman, qui invente la notion d'orthorexie au début des années 2000. Est-ce qu'il existe un consensus scientifique sur la définition de ce trouble ?
Non, aujourd'hui, il n'y a pas de consensus autour de ce trouble. D'ailleurs, on l'appelle trouble, mais on pourrait l'appeler
je
autrement.
Je l'appelle trouble.
Voilà, vous l'appelez trouble. Et ici, on a une sorte de consensus ici, mais c'est le nôtre. Il n'y a pas de consensus, ni aux États-Unis, ni en France. Il n'appartient pas au DSM, ou il n'est pas classé dans les DSM.
Manuel diagnostique psychiatrique.
Hein. C'est ça. Donc, ce n'est pas un trouble du comportement alimentaire. En tout cas, il n'est pas étiqueté en tant que tel aujourd'hui.
Alors, l'orthorexique est préoccupé par la santé et l'alimentation, et il établit une stricte frontière entre les bons aliments et les mauvais aliments. C'est ça.
Hein, c'est une bonne définition.
Sabrina Debusca, qu'est-ce qui rassemble la grande majorité des orthorexiques ? C'est quoi le point commun ?
Cette idée de
vous qui animez un blog qui s'appelle Ça saurait, vous dialoguez avec des orthorexiques, ou en tout cas vous avez dialogué avec des orthorexiques au moment où vous l'étiez vous-même. C'est quoi le point commun ?
Moi je pense que c'est cette envie de bien faire, et je pense qu'effectivement, comme on l'entendait dans le reportage, et on en a encore peu parlé, mais effectivement aujourd'hui pour les vingtenaires, trentenaires, c'est quand même beaucoup eux qui sont sur internet, on se prend des images, on se prend des choses dans la face qui sont tellement violentes que la réaction parfois est violente aussi.
C'est-à-dire des choses violentes ?
Que ce soit, des fois ça peut, par exemple, on peut rentrer dans l'orthorexie après avoir vu des images de maltraitance animale. Donc on devient végétalien, et on veut toujours aller plus. Et en fait, comme il y a un effet aussi, ça c'est un réel effet physique, dans les premières semaines d'un régime alimentaire, quel qu'il soit, il y a toujours un espèce d'effet d'euphorie. C'est parce que le corps sécrète des hormones du bonheur, je ne sais pas lesquelles précisément. Mais du coup, on a l'impression qu'on est dans la bonne voie. Et c'est qu'au bout de plusieurs semaines, ou en fonction de son immunité, de sa bonne santé, qu'on se rend compte qu'on n'est peut-être pas dans la bonne voie. Mais c'est trop tard, parce qu'on est déjà dans une espèce de religion. On est conforté sur les réseaux sociaux par tous les gens qui sont comme nous, jusqu'à se dire qu'effectivement on est visiblement en mauvaise santé, mais on est sur la bonne voie, on en est persuadé.
Et Catherine, par courriel, qui est médecin, nous écrit: certaines personnes sont obsédées par manger sainement, mais je trouve que de nombreux clips publicitaires orientent vers cela. L'aliment contient des vitamines, fait du bien. Il y a tout ce discours sanitaire autour de l'alimentation qu'on retrouve dans la pub, qui peut pousser à une sorte une forme d'orthorexie, Bruno Humbeck.
C'est le problème quand l'orthorexie devient de l'orthodoxie. Hein. Et Sabrina l'a bien expliqué avec les faux dogmes. Ça, on l'a typiquement dans toutes les névroses d'ailleurs. Hein. Le souci de consonance cognitive, on va aller chercher les informations qui vont confirmer ce qui nous permet le mieux de nous positionner par rapport à nos angoisses. Et donc, c'est vraiment ce souci de consonance cognitive qui, dans les blogs, par exemple, doit certainement être très très vite évoqué. C'est-à-dire que les gens viennent chercher non pas une information, mais l'information qui va confirmer la part de connaissances qu'ils se font.
C'est une forme de réassurance.
C'est ça. Ouais.
Bonjour, docteur Laurent Chevalier.
Bonjour.
En ligne depuis Montpellier, bienvenue, vous êtes médecin nutritionniste, dernier ouvrage paru, Alors on mange quoi ? Alors Laurent Chevalier, l'industrie agroalimentaire nous pousse à manger trop gras, trop sucré, trop salé, le tout assaisonné d'additifs variés et toxiques. Tout cela inquiète, Sabrina Debusca le disait, et nous pousse évidemment à rechercher une alimentation saine. Il est légitime de ne pas vouloir s'empoisonner, docteur Chevalier ?
Voilà, et alors ce qui est amusant, c'est que parfois justement l'industrie utilise ça, c'est-à-dire que quand on cherche à en savoir un peu plus sur les additifs, sur tout ce qui est ajouté dans l'alimentation, etc., il dit mais arrêtez, vous allez rendre les gens orthorexiques. Et donc c'est une manipulation, et l'industrie essaye d'abuser un petit peu de ce terme-là. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que en consultation, même si on n'a pas effectivement un consensus absolu sur la définition de l'orthorexie, ce sont surtout les personnes anorexiques qui sont orthorexiques. Mmh. Par ailleurs, les gens vont chercher à s'alimenter sainement, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais ce qu'il faut constater, notamment par rapport à ce qu'on trouve sur Internet, c'est qu'il y a souvent une mauvaise interprétation des études scientifiques. C'est-à-dire que les études scientifiques, notamment concernant l'alimentation, sont toujours nuancées. Et sur Internet, ce qui se développe, c'est une expertise profane. Et par rapport à cette expertise profane, les gens sont un peu perdus. Et par exemple, je vous donne un exemple très concret, c'est-à-dire que pour certaines personnes, c'est utile d'arrêter le gluten, pour d'autres le lactose, pour d'autres pas trop de viande, etc. Mais ce qui est bon pour certaines personnes en fonction de troubles ou pathologies, en fait, c'est généralisé. Et ce qu'on observe, c'est une véritable radicalité. Et c'est cette radicalité qui pose problème, si vous voulez. Et dans tous les sens, à l'extrême, comme a raconté tout à l'heure Anne-Sophie, aussi ça pose problème. Mais donc, c'est tout ça qui provoque la cacophonie, alors qu'en fait, il faudrait analyser un certain nombre d'études de façon tout à fait scientifique. Quant à la qualité des aliments, c'est pas uniquement la pyramide méditerranéenne, malheureusement. C'est justement tout ce qu'on va trouver, des résidus de pesticides, des morceaux de plastique qui vont migrer dans l'alimentation, etc., etc. Donc on a un véritable problème avec la qualité de l'alimentation. Donc c'est tout à fait normal d'avoir ou de chercher à avoir une alimentation plus saine. Après ça, il faut bien orienter ses choix et surtout bien interpréter les études scientifiques, encore une fois, qui sont toujours nuancées.
Camille Damien, vous n'étiez pas totalement d'accord avec l'intervention de Laurent Chevalier sur l'anorexie et l'orthorexie.
Disons que il y a une forme de continuum et Sabrina l'a très bien expliqué aussi. Non, c'était pas toi d'ailleurs, c'était quelqu'un.
Élodie,
voilà, c'était Élodie qui racontait son. Donc il y a dans les troubles du comportement alimentaire, si on accepte que l'orthorexie en est un, il y a des critères, il y a des choses qu'on l'on retrouve effectivement. Après, les personnes qui sont dans un contrôle de leur alimentation dans une perspective de santé, c'est pas forcément lié à un contrôle du poids ou. Donc il y a quand même aussi une différence. Mais c'est compliqué, c'est délicat.
Docteur Laurent Chevalier, l'orthorexie, on le rappelle, il n'y a pas de consensus scientifique sur ce terme. C'est une maladie ou un mode de vie, tout simplement ?
C'est un terme nouveau. Nous, ce qu'on voit, c'est des anorexiques qui ont une obsession de leur alimentation. Ça veut dire quoi ? C'est qu'ils vont jusqu'à trier les aliments dans leur assiette. Et donc ça, c'est plus de la nutrition. C'est-à-dire que moi, quand je vois des personnes anorexiques ou tendance anorexique qui viennent en cabinet, il faut absolument qu'elles soient suivies aussi par un psychiatre ou un psychologue. C'est quelque chose qui est tout à fait fondamental. Donc on est dans une autre dimension. Mais je voudrais bien insister sur le fait que manger sain ou chercher à manger sain, c'est pas du tout quelque chose de pathologique. C'est la radicalité, la mauvaise interprétation des choses qui pose problème. Et je crois qu'il faut tout faire pour mieux orienter ses choix alimentaires et, encore une fois, éviter toute cette chimie qu'on a, tous ces perturbateurs endocriniens, etc. Je vous rappelle que, quand même, aujourd'hui, en France, on estime qu'il y a à peu près 1000 nouveaux cas de cancer qui sont détectés par jour. Et on attribue à peu près la mauvaise alimentation pour un quart à la moitié d'entre eux. Donc il faut faire quand même attention à cette alimentation. On fait que, par exemple, si on a une alimentation moins salée, non seulement c'est bon, on en a déjà parlé avec vous, non seulement c'est bon pour les maladies cardiovasculaires, mais ça limite aussi le développement d'un certain nombre de maladies auto-immunes, comme les scléroses en plaques, comme les problèmes de thyroïde d'Hashimoto, etc. Donc s'occuper de son alimentation, quand on a des calculs rénaux, quand on a du gras dans le foie comme la stéatose, je veux dire, c'est tout à fait logique. Mais encore une fois, je crois qu'il faut vraiment prendre référence auprès de son médecin traitant, d'un médecin nutritionniste s'il y a besoin. Et je crois que, si vous voulez, si on fait toutes ces études, c'est pour essayer d'interpréter au mieux tout ce qu'on a sur le plan scientifique et non pas, se développer cette expertise qui n'est pas forcément toujours très bonne ou des interprétations qui ne sont pas toujours très bonnes. Et effectivement, on voit régulièrement en consultation des gens qui sont complètement perdus. Ils ont arrêté le gluten, le lactose, la viande, le sucre, et ils se mettent à jeûner. Et là, effectivement, on a des gros troubles, des grosses carences, et ça, on en voit régulièrement, notamment chez un certain nombre de jeunes femmes, et c'est tout à fait problématique.
Merci beaucoup, docteur Laurent Chevalier, d'être intervenu depuis Montpellier.
Ben voilà, il y a un caprice des dieux, par exemple, là, qui... Ça me donne des angoisses, ouais, je stresse. Ça me fait, j'ai les mains qui sont un peu moites.
Et en quoi il est mauvais pour vous ce fromage ?
Je sais pas, j'ai des endroits, je sais pas pourquoi, c'est le cœur souvent, c'est un endroit de mon corps où j'ai l'impression qu'il va être pollué. Enfin, je me dis que je vais pas tenir, que je vais mourir d'angoisse au fait, ouais. Que je peux mourir, ouais. Vraiment. Parce que je sais pas, parce que c'est pas assez sain.
Un extrait de complément d'enquête du 13 mars 2014. Que se passe-t-il psychologiquement quand un orthorexique craque ou est sur le point de craquer? Bruno Humbeck, l'interlocutrice, l'a parlé d'angoisse.
Alors, très clairement, donc l'anxiété, soit elle révèle des peurs, et là c'est plutôt positif, c'est-à-dire qu'on se met à avoir peur de quelque chose de précis, soit elle stimule l'angoisse. Et là, c'est ce qui se passe avec des symptômes qui sont clairement ceux non plus de l'anxiété, mais de l'angoisse. Il faut savoir que la névrose va toujours utiliser les champs sociaux mis à sa disposition. Donc on va créer effectivement des formes d'angoisse ou d'anxiété disponibles parce qu'on va mélanger, ça on l'entend beaucoup, des informations qui vont dans tous les sens, à la fois scientifiques, mais aussi simplement publicitaires. Quand on vous montre une femme parfaite qui, parce qu'elle mange un yaourt avec du bifidus, produit des éléments tout aussi parfaits qu'elle, ça donne l'idée qu'avec simplement de la discipline, on va réussir non seulement à avoir un transit intestinal de qualité, mais aussi à ressembler à cette dame-là et à être bien dans sa peau. Et donc, il y a une forme de culpabilité qui se met en place dès qu'on fait le moindre entorse par rapport à ce régime. De nouveau, j'entends bien clairement le docteur parler tout à l'heure de l'importance de manger sainement. Personne, je pense, ne va mettre ça en cause. C'est l'obsession qu'on a de ne jamais sortir d'un sentier fixement balisé.
L'orthorexie, c'est une manière de remettre de l'ordre dans le chaos, pour le Humbeck ?
Oui, très clairement. Hein, c'est ça aussi le souci de consonance cognitive. Hein, c'est-à-dire qu'on a tellement d'informations qui vont dans tous les sens qu'à un moment donné, on va aller se réfugier dans l'entre-soi de personnes qui partagent les mêmes convictions ou les mêmes dogmes. J'aimais beaucoup le mot dogme. Hein. Et à ce moment-là, effectivement, on a l'impression qu'on retrouve de l'ordre, qu'on retrouve de la maîtrise dans ce qu'on vit et dans ce qui nous fait vivre.
Camille Adamiec, la quête de l'orthorexique, c'est aussi une quête de sens. Un besoin de se donner des règles fortes dans un monde perçu comme déréglé, dérégulé,
bien sûr,
chaotique.
Bien sûr, je crois qu'aujourd'hui, cette quête de sens, elle est pas nouvelle, elle peut s'exprimer à travers d'autres choses, mais l'alimentation permet effectivement, à un moment donné, d'imposer des règles, des marqueurs sur aussi ce qu'on est en train de construire, sur son avenir, sur son identité. Tout ça, l'alimentation est un terrain très favorable, un terreau très favorable pour ça.
Sabrina de Busca, l'orthorexique se perçoit souvent comme plus fort, meilleur, supérieur à ceux qui n'entrent pas dans le droit chemin. C'est votre cas ?
Bah, quand je l'étais, oui.
Vous pensiez être dans le vrai ?
J'avais l'impression d'avoir raison et d'avoir trouvé la voie pour vivre jusqu'à 120 ans, pour vivre bien. Et j'étais insupportable avec mes proches. Je ramenais chaque discussion, vous pouviez partir de n'importe quel point, j'arrivais toujours à en venir à ma petite leçon de morale. Donc je venais chez mes parents et je disais à ma mère, mais tu te rends compte, oh là là, tu bois du lait, mais est-ce que tu sais quelle réaction ça génère dans ton corps, etc. Et le pire, et c'est ça qui est compliqué, et ce que j'ai remarqué, il y a beaucoup de blogueurs santé comme moi, qui vont commencer à tester des régimes à droite à gauche par curiosité, et qui du coup, ayant pris, ça, ça existe vraiment, quand on prend une décision publiquement devant des gens, des fois on a du mal à reculer après, même si on se rend compte qu'on n'est pas dans le vrai, parce que, et puis si on achète un extracteur de jus, on se met dans une voie et des fois on a du mal à en sortir.
Et votre compagnon est resté avec vous pendant toutes ces années?
Ah oui, mais alors lui c'est rigolo parce qu'il était totalement mon opposé mais c'est grâce à ça que j'ai pu m'en sortir, parce que je n'ai pas fait un rejet total et que j'ai accepté qu'il soit à côté de moi et qu'il ne soit pas comme moi, et finalement c'est lui qui m'a raisonné gentiment et qui m'a pointé les faits du doigt, quoi. Voilà.
Allez, nous attendons vos témoignages et questions 01 45 24 7000. I can feel it coming, we can never go back. Conrad sonne.
Grand bien vous fasse. Sur France Inter.
Et on s'intéresse encore quelques instants à tous ceux qui sont obsédés par l'alimentation saine, trop obsédés. Et nous accueillons Annie. Bonjour Annie, vous appelez d'Albi.
Oui, c'est ça. Bonjour tout le monde.
Bienvenue.
Merci de prendre mon appel. Oui, voilà, moi j'appelais à propos des enfants parce que je travaille en crèche et on constate depuis quelques années, mais c'est assez récent, de plus en plus d'enfants qui bénéficient d'élections alimentaires. Et ce ne sont pas des prescriptions médicales, ce sont des choix parentaux. Alors ça a commencé par le lait animal, et puis maintenant c'est le gluten, et puis les céréales. Et il y a des enfants qui ont tous ces interdits. Et donc, entre nous, on oscille entre le respect des choix parentaux, mais aussi la santé de l'enfant. Et maintenant, on refuse quand même certaines choses, si vous voulez, d'appliquer certaines choses, parce qu'on a l'exemple d'une petite fille de 2 ans et demi qui fait 10 kilos, qui n'a jamais de lait, jamais aucun produit animal, qui ne mange que des fruits et des légumes, et qui en fait profite de ses journées à la crèche pour se ruer sur la nourriture de la crèche et ne pas manger la nourriture fournie par la famille. Donc,
c'est une très bonne remarque, Annie, c'est une très bonne remarque parce que Camille Adamiac, on constate que c'est au moment de l'arrivée du premier enfant qu'on adopte, qu'on commence à adopter une alimentation santé avec l'idée d'être en harmonie avec la planète, avec essayer de donner le meilleur à ses enfants.
Tout à fait. Je pense que ça part effectivement de quelque chose d'assez légitime. Parce qu'effectivement, comme disait M. Chevalier, il y a quand même des inquiétudes qu'on peut comprendre par rapport à l'alimentation. Mais nous, on est très inquiets de ces évictions multiples et variées et d'une alimentation très pauvre. Et on se pose quand même pas mal de questions sur le développement des enfants. J'aimerais bien qu'on parle justement de ça.
Camille Adamiac.
Oui, alors juste pour revenir à ce que vous disiez, l'enfant, c'est l'avenir. Donc d'un seul coup, l'arrivée de l'enfant, c'est la projection vers l'avenir. C'est la projection dans le futur. Donc forcément, ça génère des angoisses, on peut le dire ça comme ça, et d'un seul coup, une réflexion sur l'alimentation, sur ce qu'on incorpore.
Et Bruno Humbeck ?
Oui, il y a aussi le fait que les enfants actuellement sont désirés et programmés, donc on se sent responsable de tout ce qui peut leur arriver, y compris de l'alimentation qu'on peut leur donner.
Julien Bisson, vous êtes resté avec nous. Vous avez un petit garçon, et il s'est mis à il mange bio grâce à vous. Mais quel a été le processus pour que votre fils, vous lui donniez une alimentation qui n'était peut-être pas la vôtre auparavant ?
Oh, simplement l'envie que, plutôt que de prendre des petits pots préparés par l'industrie, que ce soit quelque chose qui soit cuisiné à la maison, c'est aussi un plaisir de la cuisine et du partage de l'alimentation qu'on peut le faire. Et bon, il a 1 an, il fait déjà 10 kilos, donc ça va, il se porte bien.
Merci beaucoup, Annie, de nous avoir appelé d'Albi. Camille Adamiac, j'aimerais qu'on revienne quand même sur le fait que cette obsession de manger sainement, l'orthorexie, ça coupe aussi socialement. C'est-à-dire qu'on refuse des invitations à dîner, des invitations au restaurant, et ça contredit quand même ce qu'est manger ensemble, la commensalité.
C'est toute la question, et c'est en ça que finalement, j'ai envie de dire, nos sociétés, on a les maladies, on produit nos maladies aussi, et nos sociétés, on a produit l'orthorexie à un moment donné. C'est-à-dire que cette question de est-ce que quand on mange ensemble, on doit tous manger la même chose, c'est une vraie question. La commensalité, est-ce que ça passe par le fait de partager le même repas ou simplement d'être autour d'une même table, quitte à manger différemment? Et là-dessus, je crois qu'il y a encore beaucoup d'une vraie réflexion à avoir. Et
c'est une question qui se pose en France et en Europe. Aux États-Unis, par exemple, il est fréquent, quand on vous invite à dîner, ce qu'on vous demande, est-ce que vous mangez sans lactose, sans gluten, cachère, vegan? Sabrina Debusquet.
Oui, ça coupe des autres et c'est vraiment dommage parce qu'au final, en fait, finalement, on est tous différents et au niveau de l'alimentation, je crois que le docteur Chevalier le dit par exemple très bien, il faut comprendre que un dogme pour l'un ne peut pas marcher pour l'autre. Donc déjà, on peut abandonner cette idée et l'orthorexie nie totalement l'esprit. Or, le corps et l'esprit étant totalement liés, ce serait quand même dommage de passer à côté du bonheur, mais d'être en parfaite santé.
Merci beaucoup d'être venu en ce lundi de Pâques. Merci Camille Adamiac. Manger sain n'est pas si sain est publié chez Hachette. Merci Sabrina Debusquet, je renvoie à votre blog, ça se saurait. Merci Bruno Humbeck d'être venu de Belgique. Demain, on se demande comment bien vivre son hypersensibilité avec le psychiatre Christophe André, le psychanalyste Saverio Tomasella et avec la journaliste et thérapeute Cécile Guéret. Si vous êtes hypersensible ou si l'un de vos proches l'est, nous attendons vos témoignages demain à partir de 9h, 01 45 24 7000 et dès maintenant par courriel grand bien vous fasse @radiofrance.com.